Non, moi, on n'a rien échangé après avec moi. J'ai tout appris, tout appris toute seule. Mais on m'a aimée et protégée, ça oui.
Voilà, de l'eau jusqu'en haut. Voilà, allez.
Vous voulez faire, vous voulez que je le fasse?
Oui, Nicolas a travaillé un peu.
Ouais, bah oui.
Merci.
Pour cet épisode de Vieille Branche, je suis allée rencontrer Liliane Revers dans son café préféré, son QG. C'est le café Cacahuète, que le patron a même accepté de fermer pendant notre entretien et qu'elle a l'air de bien connaître.
C'est tombé chez vous.
Liliane Revers, pour moi, c'est d'abord toute une aventure pour réussir à se voir. C'est donc déjà beaucoup de bonheur de la voir arriver, alors qu'elle a un emploi du temps surchargé et qu'elle enchaîne les tournages à un rythme que, franchement, j'aurais du mal à tenir.
De ce qu'on pense à moi, je ne suis pas, je dis pas ça pour me... Pour m'en plaindre.
Non.
C'est juste qu'il faut que j'arrive à...
Ces nombreuses sollicitations professionnelles ne sont, cela dit, pas pour lui déplaire. Alors, je ne vous ai pas dit, Liliane Revers est comédienne. Vous la connaissez peut-être de la série 10%, de Calmos, de Buffet froid, c'est aussi une grande amoureuse du jazz qu'elle explore depuis son adolescence dans les caves du quartier latin. Et puis, vous allez le voir, c'est quelqu'un qui ne cesse de grandir, pas de vieillir, de grandir.
Je fais très attention aux gens, j'ai horreur de manquer de respect ou de manquer de parole, donc il faut me pardonner.
Eh ben, c'est tout pardonné, sachant que la première fois, c'est moi qui ai...
Nicolas, moi je veux bien encore du sucre, hein. Il est amoureux, hein. Ça va, Nicolas, vous êtes amoureux ou quoi? C'est ça, il est amoureux.
Ça fait longtemps que vous venez au café Cacahuète?
Oui, c'est mon café, c'est un de mes bureaux. Je donne des rendez-vous ici, voilà.
Du coup, Nicolas...
Vous... C'est à côté de chez moi, mais je peux maltraiter Nicolas.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant près d'une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
Je suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance, de leur vie, de l'amour, de la mort, d'Emmanuel Macron, d'Edith Cresson, de la planète à bout de souffle, des relations hommes-femmes, des relations hommes-hommes, femmes-femmes, de Tinder, du Minitel, de Snapchat. Tous les sujets sont permis.
Ah, vieille branche.
Quelle est leur morning routine? Que pensent-ils de notre époque? Quelles sont les histoires qu'ils n'ont encore jamais racontées? Je suis Marie Misset et aujourd'hui, je suis dans le café préféré de Liliane Revers. Bonjour Liliane Revers.
Bonjour.
Vous avez 86 ans, vous avez joué sous la direction de nombreux Bertrand, j'ai compté au moins Blier et Tavernier. Vous avez aussi joué avec beaucoup d'autres réalisateurs et actrices, Emmanuel Finkel notamment, Tony Marshall. Plus récemment, vous êtes Arlette, la doyenne des agents dans la série 10%, à qui on ne l'a fait pas ou plus, peut-être qu'on lui a fait avant. Vous avez surtout écumé tout ce que Paris compte de salles de jazz depuis plus de 60 ans. La musique vous tient, j'ai l'impression, plus encore que le théâtre, elle a envahi votre vie. Vous avez aussi réalisé votre premier film à 76 ans, Modus Vivendi, si je me trompe pas. Une sorte de tango morbide dans un couple qui se déchire, on en reparlera peut-être. Alors je sais pas si le tango fait partie des musiques qui vous fait chavirer.
Ah oui.
Ah oui.
Ah, j'adore le tango.
Bon, on va le découvrir très vite.
Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les danseurs de tango aussi, là.
Comment est-ce que vous allez, Liliane Revers?
Mais je vais bien, merci.
Pour vous, elle a commencé quand, votre vie? Quand est-ce que vous situez le début de votre vie, vos premiers souvenirs ou vos premiers souvenirs marquants?
Attendez, ma vie, elle a commencé le jour où je suis née. On commence comme ça. Vous voulez savoir ce qui m'a donné envie d'être actrice? C'est ce qu'on me demande tout le temps.
Oh ben, j'y allais y venir à un moment, mais je pensais plus à vos souvenirs d'enfant, avant que...
Vous savez, je suis une enfant de la guerre, moi. Voilà, moi j'ai porté l'étoile jaune et j'ai eu une enfant cachée. Et je suis toujours là. J'allais dire une grossièreté, j'aime bien dire des grossièretés.
Allez-y.
Merde les fachos, les nazis.
Bah, vous êtes juive de parents polonais, vous avez grandi dans les années 30. Il vous reste des traces, j'imagine, un petit peu de cette peur quand même de grandir cachée, à moins que vos parents ne vous aient jamais vraiment expliqué ce qui se passait.
Mes parents m'ont beaucoup aimée et beaucoup protégée, mais rien expliqué, ce qui s'appelle un rien. Donc, rien. Donc, j'apprends par moi-même. Bon, ils m'ont quand même mise au lycée. Et puis, j'étais une enfant aimée. J'étais pas une enfant auquel mes parents étaient indifférents.
m'aimait même beaucoup. Mais il ne savait pas ce que j'ai dans la tête, je ne savais pas ce qu'il avait dans la leur, je ne savais rien d'eux, je ne savais rien de moi.
Ça, c'est quelque chose que vous, vous avez essayé de casser avec vos enfants et vos petits-enfants après, dans votre famille.
Moi, avec mes enfants, je parle. Moi, je parle beaucoup, je t'informe beaucoup, j'échange beaucoup. J'ai une fille qui est chef maquilleuse au cinéma, qui a 46 ans, et que j'aime profondément, mais profondément. Je veux pas offenser les autres mères, mais c'est la meilleure fille de la Terre.
Une vraie mère juive.
Non, c'est pas ça, c'est ma fille qui est géniale. Personne ne me contredira de ceux qui la connaissent.
Et puis à 12 ans, c'est super jeune, vous découvrez le jazz?
Oui, 11 ans, je crois, je ne sais plus, oui. Oui, bah, je raconte ça d'ailleurs, oui, parce que mon frère aîné, à l'époque, on appelait ça des surprises parties, les boum, ça s'appelait des surprises parties. Il avait invité chez nous une série de copains et de copines. Et moi, la petite, j'étais chargée, j'étais préposée à la musique. Moi, je mettais des disques, 78 tours. Hein. Voilà, alors je les mettais les uns derrière les autres et j'en ai mis un qui m'a renversée. C'était ma première rencontre avec le jazz et c'était pas la dernière.
C'était quoi?
C'était Blues in the Night de Jimmy Lunceford. Jimmy Lunceford, c'était un grand orchestre swing, un très très bel orchestre qui était un peu un rival de l'époque Duke Ellington, avec des formations formidables, des musiciens magnifiques. Et j'entendais pour la première fois un blues syncopé, en mesure, avec des paroles, avec des arrangements, avec j'ai tellement été secouée par ce truc-là que je le mettais tout le temps, jusqu'à ce qu'on me dise arrête de mettre tout le temps la même chose.
Dans la soirée ou
oui.
Plus tard dans.
Ah ben je le remettais tout le temps.
Et renversé.
Ah oui, ça m'a vraiment, ça m'a fait un effet, mais alors un effet, hein.
Physique.
Ah, un gros effet.
Et puis alors après ça, vous avez, assez jeune encore une fois, traîné dans les caves du quartier latin à cette époque-là?
Oui.
À 13,
14
ans?
Quand il y avait des caves au début, oui. Ouais. Le Lorientais, le Tabou, toutes ces caves-là.
Et vos parents, ils vous laissaient sortir comme ça?
Bon, mes parents, ils ne savaient pas trop ce que je faisais, ils ne maîtrisaient pas trop ce que je faisais non plus. Dans les caves au début, j'étais encore très jeune, c'est en sortant du lycée. En sortant du lycée, je ne sais pas ce qui m'avait amené là, d'ailleurs, enfin, je m'en souviens pas, mais j'allais dans les caves, il y avait Claude Luther, dans le Lorientais, le machin, etc. Je voyais des... Ça me plaisait beaucoup, quoi. Alors j'ai commencé comme ça.
Vous vous rappeliez comment vous aviez les infos de où est-ce qu'il fallait aller, quel soir?
Pas du tout, je ne sais pas, mais j'allais où il fallait quand même.
Vous étiez là où il fallait?
Ah oui.
Et puis, vous arrivez à New York en 1954. C'est vos parents qui vous envoient là-bas dans l'espoir de vous marier, non?
Ben, ils espéraient que... Parce qu'ils voyaient que ils ne voyaient pas trop ce que je fabriquais. Ils étaient un peu inquiets. Enfin, mon papa était déjà mort, je crois. Donc, ils ne savaient pas trop ce que je fabriquais. Et j'avais un oncle, un frère aîné de mon père, là-bas à New York. Et ils pensaient peut-être que j'allais me décrocher une situation américaine avec un mari américain, un machin comme ça. Donc, ils m'ont proposé d'y aller. Moi, ils m'ont dit New York... J'ai entendu jazz.
Et le premier soir?
Ah oui, je suis arrivée le matin à l'aube. Et le soir, j'étais au Birdland.
Le Birdland, du coup, ça ressemblait à quoi? C'était un petit club de jazz, un gros club?
Non, c'était pas un petit club de jazz. C'était un club très fameux, un club historique. 52e rue. Qui avait les programmes les plus fantastiques de jazz. C'était à l'époque. Et moi, je le savais. Et en plus, je savais qu'il y avait là, en première partie, l'orchestre de Basie, de Count Basie, que je connaissais, moi, de Paris. Parce que quand je suis arrivée à New York, moi, j'ai pas découvert le jazz là-bas. Hein.
Non, vous connaissiez déjà vraiment bien.
Je suis allée même à cause de ça.
Vous avez accepté d'y aller à cause de ça?
Oui, moi, je me voyais pas trouver une situation ou m'installer aux États-Unis. Je voyais rien de tout ça.
Vous voyez que le jazz?
Ben, c'est pas que le jazz comme une idée fixe, mais c'était... C'est le seul intérêt que j'avais là-bas, au
et
départ.
Là, vos yeux, ou alors les siens, les yeux de Chet Baker vous croisent ce premier soir à New York?
Non, pas le premier soir.
Non, c'est la légende.
Non, c'est pas le premier soir. Il y avait au Birdland, les programmes étaient de 15 jours environ. Étaient de 15 jours en 15 jours. Le programme dans lequel je suis arrivée, c'était... Count Basie Big Band,
Et Miles Davis Quintet, rien que ça. C'était ça les programmes des Birdland. Hein.
Pas mal.
C'était cette époque-là. Moi, je suis tombée en plein dans une marmite magique. Donc, le programme a changé 15 jours plus tard. Et là, ils avaient engagé Dizzy Gillespie en formation réduite. Sextet ou Septet, je ne me souviens pas très bien. Et Chet Baker Quartet pour un mois. Chet Baker qui était nouvellement connu par Jerry Mulligan et aussi par un disque qu'il avait sorti où il chantait, qui avait fait tout un truc. Voilà, donc j'ai rencontré Chet au Birdland.
Il est tombé amoureux.
Oui. C'est ce qu'il a toujours dit, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a toujours aimé dire d'ailleurs. Il a eu un coup de foudre.
Et vous, c'était que lui le coup de foudre ?
Moi, j'ai pas eu de coup de foudre, mais j'étais étonnée, contente, j'étais un peu éblouie peut-être parce que c'était bon, c'était quand même déjà une star, même si c'était pas encore une icône, parce qu'il était beau garçon. Parce qu'il avait il m'avait entrepris de me prendre d'une façon très, 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 très décidée. Et je me suis laissé faire.
Il est carrément venu à Paris avec vous ?
Il est venu à Paris à ma suite, parce que j'avais, moi, pas voulu prendre un visa d'immigrant. Je voulais être sûre de retourner un peu sur mes terres. Donc, prudemment, j'avais pris un visa visiteur. Ce visa, il a été prolongé plusieurs fois. Et puis, un jour, ni Chet, ni son agent, qui était pourtant tout puissant, ont réussi à le prolonger une fois de plus. Donc il a fallu que je rentre. Donc il s'est fait organiser une tournée ici en Europe.
Pour pouvoir vous suivre.
Voilà.
Et vous viviez où du coup à New York ? Vous viviez seule ? Vous étiez jeune encore ?
Ben, j'ai atterri chez mon oncle déjà, ouais. Au départ, où tu étais venu me chercher. Et puis j'avais dégoté déjà un boulot. Il voulait me garder. Hein, je ne sais plus, je faisais des photocopies, je ne sais plus ce que c'était. J'avais dégoté un boulot. Et il m'avait fait passer un interrogatoire de QI. Et alors j'avais un QI élevé, ce que j'ignorais. Je savais même pas à quoi ça rimait d'ailleurs. Et il voulait me garder. Je lui ai dit non, je pars. Et alors il me dit, mais je vais en Californie. Ah ben on peut vous trouver un boulot là-bas. Non, enfin j'ai dit non, je suis partie avec Chet.
Vous dites souvent, je pense à ça parce que vous parlez de votre QI élevé, vous dites souvent qu'à l'époque...
Je ne devrais peut-être pas parler d'un QI élevé, c'est peut-être pas de bon goût.
Bah si, c'est bien. Que vous analysiez pas vraiment les choses, que vous fonciez un petit peu tête baissée dans ce qui vous plaisait.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que je ne pensais pas, je n'analysais pas. Je vivais au jour le jour.
Et la musique d'aujourd'hui, il y a des choses que vous écoutez ?
Oh, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous plaît ?
J'écoute de la musique, mais si c'est pas autant, c'est de plus en plus. Mais il n'y a pas que du jazz, d'ailleurs. Le jazz, c'est vrai que c'est principalement ce que j'écoute. J'écoute énormément de jazz. Mais il y a d'autres musiques que j'aime. J'aime Chopin, j'aime Bach, j'aime le flamenco, j'aime le fado, j'aime la chanson.
Le tango.
Le tango.
Et les danseurs, plus.
Oh, les danseurs de tango.
La danse, ça va pour vous avec la musique ? Ou c'est un amour à part ?
Non, ça va avec, mais c'est pas inséparable de la musique. C'est la musique qui prend toute la place. La danse, elle rentre dans ma vie parce que la danse, j'aime ça aussi. Parce que c'est beau aussi.
Et vous avez parlé rapidement de lui tout à l'heure. Vous avez aussi eu une relation avec Dizzy Gillespie à un moment. C'était comment à l'époque ?
Attention à ce que vous dites. Une relation, c'est suspect.
Eh ben, dites-moi alors.
Voilà, non, moi, j'avais pas de relation avec Dizzy Gillespie. Il y avait une femme qu'il aimait beaucoup, à laquelle il était fidèle, d'ailleurs. Et j'étais admirative du maestro, du talent inouï de cet homme-là. Et donc, je l'ai écouté, rencontré très souvent, en particulier en France, au New Morning. Et c'est devenu, pas un ami, on n'était pas, mais c'est devenu un ami quand même. Et puis, je l'admirais.
Vous avez raison de préciser. Et du coup, est-ce que vous perceviez à l'époque la question raciale, par exemple ?
Écoutez, je ne me rendais compte de rien du tout. Je n'analysais rien. Je faisais même des choses dangereuses. Je faisais même des choses très bizarres.
Comme quoi ?
Ben, comme quoi, par exemple, Chet m'a emmené et puis on a atterri à Saint-Louis, où il faisait quelque chose comme je sais pas combien de degrés, enfin une chaleur inconnue de moi. Et on était dans un hôtel bien conditionné, un bel hôtel. Et le soir, tu sais qu'ils jouaient à Saint-Louis, à Saint-East, Saint-Louis, à Saint-Louis-Est, dans les quartiers pauvres et noirs, dans une boîte où il n'y avait que des noirs à part nous. Le programme précédent, c'était quand même Clifford Brown avec Max Roach. Et moi, j'adorais cet endroit. Et donc, je me suis fait tout de suite des copains. Et mes copains, moi, je les ai tirés, je les ai amenés avec moi à l'hôtel Melbourne. À l'hôtel Melbourne, ils ont été très, très étonnés de me voir arriver avec 3-4 garçons du plus beau noir.
C'est l'époque où on est dans le sud et c'est encore l'époque de la ségrégation.
Mais c'était même dangereux, mais je ne me rendais pas compte du tout.
Non.
Je ne me rendais pas compte du tout. Je les ai fait monter avec moi dans ma chambre. Ils ont osé le faire.
Ils devaient être...
ils devaient être très, très étonnés. Mais moi, ça me venait pas... Comment vous dire, je sais pas, je n'étais pas bête, c'est pas que je ne suce pas les choses, mais c'est que
Vous n'oubliez pas les prendre en compte.
Non, ça ne me venait pas, ça ne me regardait pas, ça ne me venait pas. C'est pas que je les chassais pas, je faisais pas des actes de courage, j'agissais comme ça, normalement, dans le moment.
Et est-ce que vous aviez, du coup, même si vous analysiez pas forcément, l'impression qu'il y avait une différence de traitement entre la France et les États-Unis, par exemple des musiciens noirs ou des...
Je me rendais pas aussi bien compte que je l'aurais fait maintenant. Parce que moi, mon rapport avec les musiciens noirs et même les noirs tout court, il était un rapport naturel. J'ai un rapport naturel, je n'ai pas d'autre. Donc, je ne voyais pas le problème, et bon, on ne l'évoquait pas spécialement devant moi. Parce qu'avec moi, il n'y avait pas... Enfin, j'étais comme chez moi.
Et pourquoi vous dites qu'aujourd'hui, vous vous en rendriez plus compte?
Parce qu'aujourd'hui, j'ai grandi, depuis, j'ai appris des choses, et que je vois les choses de la vie, de la politique, du monde comme il va, beaucoup, beaucoup mieux.
Vous avez gardé des amis aux États-Unis dans le monde?
Oui, mais il y en a plein qui sont morts.
Ça arrive.
Il y en a plein qui sont morts. À l'âge que j'ai, il y en a plein que j'ai perdu quand même. Ouais.
Si vous voulez avoir plus de détails sur sa jeunesse dans les caves du quartier latin, sur le New York du jazz des années 50, Liliane Rovert vient d'écrire un livre qui est paru le 11 avril, La folle vie de Lily, c'est aux éditions Robert Laffont, où elle se raconte plus en détail et revient aussi sur un passé qui contient évidemment, et comme elle le sous-entend plusieurs fois pendant notre entretien sans jamais vraiment y aller, de grandes zones d'ombre. On va parler un petit peu de votre carrière cinématographique. C'est quoi vos premiers souvenirs de cinéma?
Je raconte ça et je vais avoir à le raconter souvent parce qu'on me le demande et que j'ai été obligée de le répéter. À 4 ans, on m'a emmenée voir Blanche-Neige de Walt Disney qui venait de sortir. Je ne savais pas qu'il existât quelque chose qui racontait un scénario avec des personnages, des dialogues, des images, des situations... Et quand j'ai vu ça, j'ai été à peu près aussi autant et encore plus peut-être renversée. C'est comme le jazz. Ça m'a fait un effet énorme.
Retourner comme une crêpe.
Ça m'a fait un effet énorme. On me dit, je ne sais pas si mon souvenir est exact, je ne sais pas trop, hein. Je ne vous garantis rien, on me dit que j'ai rejoué tous les rôles. Et à partir de là, je jouais. Je jouais pour moi, mais je ne savais pas que je jouerais pour les autres.
Vous aimiez les rôles de méchante, le rôle de la méchante, par exemple, dans Blanche-Neige?
Non, je me voyais dans des rôles dramatiques, dans des héroïnes dramatiques. Je me souviens qu'à 9 ans, j'ai participé à une pièce de théâtre, pas mal d'ailleurs, et dans un préau, je ne sais plus où c'était, Le Luthier de Crémone. Il s'agissait de Stradivarius, quand même. Et moi, j'étais le petit bossu avec le violon et le génie du violon. Et la jeune héroïne, elle, c'était la jeune héroïne. Et moi, j'aurais voulu être la jeune héroïne. Alors que l'autre était bien plus intéressant.
Votre rôle, il était plus intéressant.
Bien plus intéressant. Et puis, j'y suis allée, hein, j'ai mis le paquet.
Vous traîniez votre mère pas mal dans les cinémas à l'époque.
Oui.
Comme un petit tyran.
Oui, elle se laissait traîner quand même. Je veux dire, elle n'avait pas beaucoup d'autorité sur moi. Ma mère était douce et gentille. Enfin, gentille. Moi aussi, je suis gentille, mais elle était douce.
Vous n'êtes pas douce?
Non, je ne suis pas douce. Je suis pas douce par opposition à violente ou à ou rude, mais c'est vrai que je n'ai pas cette douceur qu'elle avait. Je sais pas, moi j'ai un tempérament plus du côté de mon père, de la famille de mon père. Donc il y avait plein de cinémas de quartier. Et on fréquentait tous les cinémas de quartier. Je traînais ma mère, école ou pas école, au cinéma 3-4 fois par semaine. Et elle se laissait quand même un peu entraîner, je trouve. En tout cas, elle venait avec moi au cinéma. Donc tout le cinéma d'avant-guerre français, hollywoodien, je connais très 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 bien.
Est-ce que vous voyiez les films plusieurs fois à l'époque ?
Non, à l'époque non.
Une seule fois ?
Maintenant, oui. Les films qui m'intéressent, j'aime bien les voir plusieurs fois. Ah oui, maintenant c'est autre chose. Mais maintenant j'ai grandi un peu quand même.
C'est quoi le dernier film que vous avez vu plusieurs fois ?
Oh, il y en a quelques-uns. Le dernier en date, c'est Three Billboards.
Ah oui, je vois.
Trois panneaux de la vengeance. J'ai vu et revu Léviathan de Andrei Zviagintsev, ainsi que Faute d'amour. Et puis d'autres. Enfin, je ne vais pas vous épeler comme ça, les uns derrière les autres, mais j'aime beaucoup revoir les films qui m'intéressent, parce que chaque fois que je les vois, d'abord, ça ne s'use pas, parce que la force est toujours là, et puis parce que j'y vois de plus en plus de choses.
C'est votre maman, on en parlait il y a un instant, qui a compris votre désir d'être comédienne avant vous.
Ah ben, elle l'a deviné.
Alors que vous jouiez tous les rôles de Blanche-Neige.
Non, ma mère ne savait pas du tout tout ça. Ma mère ne savait rien de tout ça. Personne n'en savait rien, puisque j'étais beaucoup trop complexée, je ne sais pas comment il faut dire, pour avouer que je voulais être comédienne. Et puis, je n'aurais même pas osé essayer. J'étais persuadée que je ne saurais pas, ou que je serais mauvaise, ou que j'aurais l'air con. Je ne sais pas. Et c'est elle qui a deviné et qui m'a donné un coup de pouce. Et sans elle, je n'y serais pas allée. Ce qui ne m'empêcherait pas le monde de tourner, hein, la lune de se lever, mais qui pour moi aurait
Dommage.
Été... Parce que finalement, c'est ma profession, c'est celle que j'aime, c'est celle que je fais, et c'est celle que je fais toujours.
Et vous vous rappelez de ce jour où elle vous a dit « mais c'est ça que tu dois faire » ou « c'est ça que tu veux faire, Liliane » ?
Elle ne m'a pas dit comme ça, elle m'a dit tout à trac... Si tu veux, je te paye des cours de théâtre, vas-y avant qu'il soit trop tard.
Vous aviez des parents assez ouverts quand même, j'ai l'impression.
Oui. Vous n'avez pas des parents coincés.
Non.
Ben, des parents coincés, mais ouverts, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qui échangent beaucoup avec leurs enfants, non. Non, moi, on n'a rien échangé après avec moi. J'ai tout appris toute seule. Mais on m'a aimée et protégée, ça oui.
Vous avez essayé peut-être vers la fin de la vie de votre maman de discuter un peu plus ?
Non.
Il y avait comme une barrière.
Non, je ne sais presque rien de mes parents. Maintenant, ça m'ennuie, ça m'embête. Ça m'embête vraiment. Ça me chagrine. Je ne sais rien de mes parents, de personnel. De leurs idées, de leurs sentiments, de leurs problèmes, je ne sais rien. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai finalement cédé, parce que je ne voulais pas écrire un livre, parce que ma fille le veut tellement.
Elle
veut tout savoir de moi.
Ouais,
et je me suis dit, ben alors allons-y.
Et c'est la raison pour laquelle vous l'écrivez pour vos enfants en partie ?
C'est la raison prédominante, la raison principale.
Vous avez joué dans trois films de Bertrand Blier, Calmos, Préparez vos mouchoirs et bien sûr Buffet froid. Comment est-ce que vous avez rencontré Bertrand Blier ?
Bertrand Blier, il avait à l'époque, quand il montait Calmos, il avait, je crois, Claire Denis comme assistante, et il m'avait vu au théâtre. Il m'avait vu au théâtre et je l'avais fait rire. Il aimait les comédiennes qu'il faisait rire, et il me l'a dit. Et donc j'ai été convoquée pour un casting, et il y avait deux petits rôles entre lesquels choisir. Il m'a donné le choix, et j'en ai pris un.
Et quel rôle d'ailleurs dans Calmos ?
Dans Calmos, c'est le rôle de « Je suis soldate ». Je suis soldate dans un espèce de « no man's land ». Et je lèche du lait condensé d'un air louche en regardant Rochefort, et enfin bref, voilà. Avec un dialogue à la Blier.
Parfait.
Et ça a fait beaucoup rire tout le plateau, et Blier aussi. Et voilà.
Que vous léchiez du lait condensé ou...
Non, la façon dont je l'ai fait. Je ne sais jamais comment je vais faire les choses. Je découvre une fois que je les ai faites.
Ah, vous ne prévoyez pas ?
Pas beaucoup. Maintenant, je travaille autrement. Maintenant, je ne travaille pas que comme ça, à l'instinct et en me jetant à l'eau. Je travaille en réfléchissant à ce que ça raconte, à ce que je veux faire et à ce que je ne veux pas faire. Mais c'est vrai que je ne prévois pas, je prévois pas mes discours non plus, je parle avec vous librement. Je ne sais pas ce que je vais dire, il y aura peut-être des choses inutiles ou inintéressantes, j'en sais rien.
Vous pouvez vous auto-surprendre ?
Non, c'est pas parce que je veux m'auto-surprendre, c'est ma nature, je suis comme ça.
Je demandais si ça arrive que parfois vous dites « Ah tiens, je viens de dire ça » ou « Ah tiens, je l'ai joué comme ça ».
Oui, ça, je me suis surprise à trouver des choses. En jouant, j'ai inventé des choses dont je ne savais vraiment pas que je les inventerais, ça c'est vrai.
Est-ce que Calmos, vous diriez que c'est un film anti-féministe ?
Bon, vous savez, Bertrand Blier, je pense que c'est un homme qui aime beaucoup les femmes et qui n'est pas très à l'aise peut-être avec elles, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne veux pas parler de Bertrand Blier, il est là à côté, il habite au Bois Poissonnière à côté de chez moi. Mais je pense qu'il a... Effectivement, il est assez rude, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit parce qu'il n'aime pas les femmes.
Je vais rappeler peut-être pour les auditeurs que Calmos, c'est un film où trois hommes décident de se couper du monde qui est devenu un peu trop féminin à leur goût et de manger du pâté. C'est très voilà. Résumé.
Et Calmos, comme souvent les films de Blier, a une deuxième partie qui décolle. Deuxième partie assez fantastique.
Exactement.
C'est souvent le cas.
On vous le conseille en tout cas.
C'est le cas aussi d'en préparer vos mouchoirs où la deuxième partie décolle vraiment.
Loin.
Ouais.
Vous avez des souvenirs de rôles au cinéma ou au théâtre qui vous ont demandé beaucoup de force, enfin, qui vous ont épuisé, qui ont été durs à jouer ?
J'ai eu des aventures plus dures que d'autres, oui. J'ai eu à plusieurs reprises des difficultés avec des rôles où je ne trouvais pas, je ne savais pas. J'étais paumée, je m'angoissais. Et en général, à la dernière semaine, tout d'un coup, tout arrive. Ça se coagule, je ne sais pas comment ça...
Vous avez un souvenir d'un film en particulier ou d'une pièce sur laquelle ça arrivait ?
Pas spécialement au cinéma, surtout au théâtre. Mmh. Au cinéma, j'ai changé, vous savez, le trac peut encore me surprendre. C'est sournois, le trac. Mais ça ne me surprend pas souvent, maintenant. Maintenant, je me domine mieux, je sais plus travailler, je grandis.
Vous arrêtez pas de grandir.
Ah ouais, j'arrête pas de grandir. Et puis vous savez, j'ai mis du temps, hein. J'ai du retard à rattraper.
Vous avez comment ça ?
Mais parce que c'est très long tout ça. C'est très 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 long à apprendre, à comprendre. Et ce qui est très très long et qui est assez désespérant, c'est qu'on n'arrive pas à intégrer ce qu'on sait. Ça prend du temps ça aussi. Une fois qu'on sait les choses, on les a pas encore intégrées.
Et vous avez l'impression qu'il y a eu un déclic à un moment ? Quand
non.
Vous dites ça a été très long ou c'est juste
non,
que...
Non, il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic, les choses arrivent.
Ça processe.
Oui.
Et alors, du coup, vous avez aussi partagé plusieurs fois des rôles avec... des films avec Gérard Depardieu ou avec...
J'ai eu Gérard Depardieu deux fois comme partenaire, dans des scènes à deux, d'ailleurs. Une fois dans Préparez vos mouchoirs, dans une scène assez mémorable, parce que le texte, il est génial, et que la scène, elle est un peu culte. Et aussi dans Buffet froid, qui est, selon moi, un très grand film.
Qui est un très grand film, Et alors, continuez à le regarder évoluer de loin
Gérard Depardieu ? Oh, moi, je trouve que c'est un comédien absolument génial. Ouais.
Il y a un film dans lequel vous jouez d'Emmanuel Finkiel, où vous parlez yiddish.
Oui.
Il s'appelle Voyage.
Oui.
Je crois qu'ils ont découvert, pas par hasard, que vous parlez... Enfin, comment ça s'est passé ? Parce que vous ne le disiez pas, en fait, que vous parliez yiddish, c'est pas quelque chose que
je ne le disais
avez...
pas, ni ne le cachais, ni ne le disais, ouais. Ça ne se présentait pas. Ça n'avait pas lieu. Et puis un jour, j'ai eu en sortant de la radio, j'avais fait une radio, une radio de comédienne. Mm-hmm. J'ai eu un coup de téléphone de mon agent me demandant de rappeler au plus vite une production, parce qu'ils avaient appris par Maurice Chevitt, qui était un comédien que je connaissais bien, avec lequel j'avais travaillé, et qui avait fait le court-métrage, le moyen-métrage d'Emmanuel, Madame Jacques sur la croisette. D'ailleurs, il apparaît aussi dans Voyage. Et Maurice leur a dit que je parlais yiddish et il cherchait quelqu'un qui parlait yiddish.
Et vous, vous parlez yiddish, vous parliez avec vos parents yiddish ?
Mes parents parlaient yiddish à la maison. Ils ne parlaient pas polonais, ils parlaient français ou yiddish. Les gens autour de nous, enfin ceux qui étaient juifs en tout cas, parlaient yiddish. Et moi, je ne savais pas que je parlais aussi bien yiddish, mais finalement, il m'en est resté beaucoup.
Est-ce que, du coup, c'était ma question. Est-ce que c'est une langue que vous avez oubliée pendant tout un temps ?
Yiddish, j'ai pas beaucoup l'occasion. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le parlent. Quand je rencontre, par exemple, il y a des comédiens, un ou deux, quand je rencontre quelqu'un qui le parle, j'adore, je suis contente.
Voilà. Et puis, je n'étudie pas le yiddish à l'université. Je ne fais pas des études en yiddish. Je fais pas un sort particulier au yiddish. Mais c'est vrai que j'aime le parler, je l'aime l'entendre. Et puis, je ne savais pas que j'en savais autant quand même. Je pensais que mon yiddish était très rudimentaire et finalement, il est un peu mieux que ça.
Et c'est des émotions de parler yiddish ou ça vous semble un peu...
Non, c'est réjouissant. C'est réjouissant parce que... parce qu'en yiddish, les choses sont souvent savoureuses, souvent très drôles. Et puis, c'est tout un contexte. Et puis maintenant, ça me renvoie aussi à toutes sortes de choses. Et ça, il y a tout un vécu.
Et puis c'est presque un pays, une langue, c'est ce qu'on dit parfois.
Oui, absolument. Vous avez raison.
On s'y retrouve parfois. Aujourd'hui, lequel cinéma vous plaît ? Vous avez un peu répondu en parlant de Three Billboards.
Le cinéma qui me plaît. Moi, j'ai été extrêmement influencée par le film noir. J'ai été scotchée avec le film noir. Je vous parle, par exemple, de La Dame de Shanghai, d'Orson Welles, des Tueurs du Ciel de Mac, de Assurance sur la mort, de Billy Wilder, et un certain nombre, mais beaucoup de films de cette époque, et beaucoup le film noir est quelque chose qui est un genre qui me séduit toujours autant. D'ailleurs, je suis toujours fascinée par le noir et blanc. Je préfère le noir et blanc à la couleur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres réalisateurs qui m'ont, pour toutes sortes de raisons, beaucoup intéressée. Enfin, le mot est faible. Je pourrais vous citer Kieslowski, en particulier le Décalogue. Pas que le Décalogue, mais en particulier le Décalogue. Je pourrais vous citer Mankiewicz. Je pourrais vous citer Billy Wilder, je pourrais vous citer Orson Welles, je pourrais vous citer Eric von Stroheim, je pourrais vous citer beaucoup de choses. Vous savez, il y en a tellement, je vais pas faire un catalogue. Mais le russe Diaghilev, là, Léviathan et Faute d'amour, c'est très fort.
Vous avez quel rapport avec vos personnages ? Par exemple, quel rapport vous avez avec Arlette ? Vous l'aimez bien ? Vous la considérez comme une personne à part entière ? C'est un rôle ?
Arlette, la personne que je personnifie, enfin la dame que je personnifie dans 10%, s'appelle Josette Arrigoni. D'ailleurs, elle est toujours vivante et je la salue. Et cette dame, je ne lui ressemble pas beaucoup. Donc, je ne me suis pas... J'ai pas... vous comprenez, je ne projette pas. Je n'analyse pas, je ne me projette pas dans l'après. Pas beaucoup. Et Arlette, un peu naturellement, j'ai senti que j'avais intérêt à la tirer vers moi. Donc j'ai mis beaucoup de moi dedans. Et donc elle ressemble pas beaucoup à Josette, elle me ressemble à moi.
Ça n'embête pas Josette ?
Hein ?
J'ai dit ça n'embête pas Josette.
Je pense pas. Je pense pas, je l'ai rencontrée. Dominique Besnard l'a invitée un jour sur le plateau, on a déjeuné ensemble.
Josette, elle est toujours agente aujourd'hui ?
Non.
Non. Parce que vous travaillez encore beaucoup, beaucoup aujourd'hui, c'est ce que...
Moi, je travaille beaucoup aujourd'hui, et même de plus en plus, ce qui est une chance, parce que les actrices vieillissent, les actrices tout court travaillent moins que les acteurs, les actrices vieillissantes encore moins que les autres. Et là, maintenant, moi, j'ai une chance inouïe, parce que je travaille beaucoup.
Ça change un peu, ça, non, quand même, en ce moment ? Les actrices, les rôles pour les actrices ?
Oui.
Non ?
Je ne sais pas.
Pas sûr.
Je ne sais pas, pas vraiment encore, pas vraiment encore, Pas vraiment tout à fait, non.
Vous croyez qu'il vient...
Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les femmes.
C'est quoi les priorités ?
L'égalité.
Je vous l'ai déjà dit, mais j'aime vraiment beaucoup le fait que Liliane Anvers dise tout le temps qu'elle grandit. D'ailleurs, ça se sent que tout est source d'apprentissage et de compréhension. Comme vous l'entendez, c'est pas évident de la faire aller là où je veux. Sûrement parce que ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Liliane Anvers, elle va là où elle veut, quand elle veut. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais d'être une femme dans le milieu du jazz, d'être une femme dans le cinéma des années 70, 60, 80, c'était difficile ?
Je ne l'analysais pas comme ça.
On y revient.
Je ne me demandais pas si c'était difficile d'être une femme. Je vivais ma vie. Et je la vivais bien parce que j'avais beaucoup de chance, parce que je rencontrais ce qui m'intéressait, sans effort.
Et aujourd'hui, vous portez un regard sur la personne que vous étiez à l'époque en vous disant quand même, elle a dû se battre contre des choses.
Oh, non, je ne me dis pas qu'elle a dû se battre contre des choses. Aujourd'hui, je ne veux pas y revenir trop non plus, mais quand j'écris ce livre, je me place du point de vue de la femme que je suis maintenant, qui raconte la petite fille de 2 ans, de 4 ans, de 50 ans, de mon point de vue aujourd'hui.
Et du coup, votre point de vue...
Il faut avoir un point de vue, déjà. Donc, c'est déjà... Voilà.
Vous avez réalisé votre premier film à 76 ans. Est-ce que c'est parce que, comme vous le dites depuis tout à l'heure, grandir, ça prend du temps ?
Je ne savais pas que j'allais réaliser un film. D'ailleurs, je ne savais pas que j'allais écrire un livre non plus. Je ne savais pas que j'allais réaliser un film parce que ça me semblait un sommet. Ça me semblait au-dessus de mes forces, au-delà, tout à fait au-delà de mes moyens. Mais j'avais écrit pas mal de choses déjà. Je m'intéressais de plus en plus à l'écriture. Et puis, j'avais écrit un scénario que j'avais vraiment fouillé. Et on m'a poussé dans la fosse au lion. On m'a dit, c'est toi qui dois le réaliser, gna gna. Bon, c'était un moyen métrage de 28 minutes à peu près. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour y aller, mais j'y suis allée et je ne l'ai pas regretté.
C'était quoi l'histoire ?
Oh, une histoire bien tordue. Mm. Bien tordue. C'était l'histoire de... Enfin, si vous voulez, le thème, c'était comment est-ce que... On s'englue dans un couple, dans un problème, et comment on ne se désenglue pas, comment on reste avec son problème au lieu de le quitter. Donc là, c'était une histoire bien tordue d'une femme qui, au lieu de quitter simplement son mari, un beau jour, sur une bouffée, le plante.
C'est une histoire qui vous intéressait, ces histoires d'engluement, de ne pas réussir à prendre
ça,
des décisions ?
Ça m'intéressait, oui. Mais enfin, l'idée m'est venue parce que j'avais lu dans Le Monde, il y avait des petits, il y avait une colonne où il y avait des petits faits divers. J'avais lu l'histoire d'un... En fait, c'était un Allemand, mais dans mon souvenir, c'était un Japonais qui avait planté sa femme et filmé son agonie.
Chouette.
Je me suis dit, mais comment c'est... Comment... Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire que... Bon, on tue quelqu'un, ça arrive. Mais qui filme son agonie, c'était quand même il y a longtemps. C'était pas comme maintenant, avec les portables, tout le monde filme tout. Comprenez ? Mmh. Fallait vraiment le vouloir. C'était filmé sur des cassettes, sur des vidéocassettes. Et cet homme avait beaucoup filmé sa femme, lui, dans l'histoire. Et elle le filmait à son tour. Et quand elle avait fini, et quand il était mort, elle appelait la police.
Elle l'a filmé jusqu'au bout.
Ah, c'était très gai.
C'est vrai que ça pose pas mal de questions.
Oui, mais c'est très curieux. Je me souviens d'une histoire qu'on me raconte, vraie ou fausse. Une femme qui, admettons que ce soit pas vrai, mais que ce soit hein, une femme qui vit depuis 40 ans avec un homme qui, le matin, lit son journal sans lui adresser la parole. Ben, un jour, elle prend une fourchette et elle le plante. Elle l'a pas prévu. Elle s'est pas dit, je vais le planter.
Mais est-ce que ça vous intéresse particulièrement, ces histoires, parce que vous ne comprenez pas ? Parce que vous avez l'air, en tout cas, de loin d'avoir une vie assez libre et d'avoir fait à peu près ce que vous vouliez quand vous avez envie de le faire, et qu'en fait, vous ne comprenez pas qu'on puisse rester, qu'on puisse s'engluer ?
Non, je comprends que... Je comprends. Je ne peux pas me mettre à la place des autres. Moi-même, je me suis déjà engluée dans des problèmes aussi. J'aurais pu sortir avant. C'est pas si simple.
Je me trompe quand je dis que vous êtes quand même quelqu'un de libre et que...
C'est... Non, vous ne vous trompez pas. C'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours eu cette liberté. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Je n'ai jamais voulu qu'on me dise « mets-toi là, tais-toi, fais ceci, fais cela, va à la cuisine ». Ça, ce n'est pas pour moi.
Ça, d'ailleurs, ça rejoint quelque chose dont on parlait il y a quelques instants. Vous avez dit beaucoup que vous n'étiez pas féministe, que vous n'étiez jamais laissée faire.
J'ai pas dit que je n'étais pas féministe. Je suis féministe si on ajoute que c'est pas pour gagner la guerre contre les hommes et les dominer. C'est pas pour renverser la situation. C'est pour libérer les femmes et pas pour asservir les hommes.
Et ça, c'est important à préciser.
Asservir personne.
Pas de vengeance.
Asservir personne.
Qu'est-ce qui vous fait peur pour vos petits-enfants aujourd'hui ou pour vos enfants ?
Le monde d'aujourd'hui.
Dans son intégralité ?
Le monde d'aujourd'hui est très, très menaçant. La terre, le climat, la politique, le monde comme il va. 50% des gens de la planète n'ont rien, ne comptent pas. Ils ne produisent pas, ils ne sont pas citoyens, ils ne travaillent pas, ils ne votent pas. Non seulement ils ne comptent pas, mais ils encombrent. Et à côté de ça, vous avez 1% de la planète qui possède, je ne sais pas combien, 80% des richesses. Enfin, je ne sais pas le chiffre, je ne veux pas citer de chiffres comme ça, mais c'est quand même de cet ordre. Et c'est donc un monde qui marche sur la tête. Et ce qui ne me plaît pas du tout, du tout, du tout, c'est ce que ça annonce, et c'est ce que Orwell avait annoncé avec Big Brother. Le tout connecté, la novlangue, tout le monde... Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de... Enfin, je veux dire, c'est un monde qui me plaît pas, et j'aimerais que des forces se mettent en route pour entraver ce chemin, quoi.
Est-ce que du coup on peut dire que c'était mieux avant?
Ah, vous savez, avant, c'était mieux. C'était mieux avant, à certains égards, oui, c'est vrai, c'était plus insouciant. Mais avant, il y avait quand même eu Shoah, il y avait quand même eu l'Amérique qui avait exterminé les Indiens, il y avait quand même eu l'esclavage, il y avait quand même eu beaucoup de choses avant. Le monde n'a jamais été facile, ça n'a jamais été... Mais autant j'aime le noir dans l'écriture, au cinéma, autant j'aime le noir, la comédie, par exemple, je l'aime quand elle est noire, beaucoup. Autant je n'aime pas la noirceur dans la vie.
Vous parlez de conscience politique un petit peu, ça a commencé quand pour vous?
C'est venu petit à petit, c'est venu petit à petit. Là aussi, c'est venu aussi. Vous savez, les choses m'arrivent, elles cheminent à côté de moi et elles se matérialisent. Et puis tout d'un coup, je les vois. Je m'aperçois que, je vois que. Alors, ce n'est pas une illumination. Je ne suis pas d'une naïveté. Encore que j'ai été très, très naïve, très. Mais bon, les choses, je ne sais pas comment vous dire, je ne les anticipe pas tant que ça. Jamais je pensais que j'écrirais, par exemple.
Mais ça fait son chemin, quelque part.
Ça fait son chemin. Un jour, ma mère, j'avais peut-être 35 ans, j'étais dans une panade énorme.
Financière.
Et j'étais très désagréable et très énervée. Et elle me dit, tu devrais écrire. D'où elle a sorti ça? L'écriture est rentrée dans ma vie.
Elle avait quand même des intuitions, votre maman.
Ah, oui, alors. Oui, elle avait de grosses intuitions, ma maman.
Vous aussi, vous marchez beaucoup à l'intuition.
Oui, je marche beaucoup à l'intuition. Ça ne m'empêche pas de réfléchir, mais je réfléchis plutôt après qu'avant. Maintenant, je suis plus réflexive parce que je suis plus vieille. Je grandis, je ne suis pas aussi naïve que je l'étais. J'ai appris à vivre, je me méfie quand il le faut. Je ne fais pas confiance à tout le monde. Je n'aime pas tout le monde. Mais c'est vrai que ma nature est impulsive.
Quand vous dites j'aime pas tout le monde, vous aimez la plupart des gens quand même?
Moi, je n'aime pas la plupart des gens, j'aime les gens que j'aime. J'aime les gens que j'aime, les gens que j'aime sont les gens qui sont gentils. Et quand je dis gentil, c'est pas gentil, n'a qu'un œil, c'est pas bien gentil. J'aime les gens qui sont honnêtes et gentils.
Gentil n'a qu'un œil.
Et moi, j'en ai deux.
Je connaissais pas l'expression.
C'est une expression du midi. Non, je n'aime pas, clairement, je n'aime pas les brutaux, les fascistes, les violents, les cyniques, les machos, les nazis et tout ce qui est de cet ordre-là. C'est pas que je les aime pas, c'est que je suis leur ennemi.
C'est un bon. Et qu'est-ce que vous aimeriez transmettre avant tout ça, par exemple?
À mes enfants?
Ouais.
Moi, je parle beaucoup à mes enfants. Avec ma fille, je parle énormément. Et ça nous a très, très bien réussi. Et elle fait la même chose et très bien avec ses enfants.
Donc ça, c'est vraiment un...
Ah, très, très bien. Très, très bien. Nous, on n'a pas de sujet tabou. J'aime bien échanger des idées, échanger des informations... se confier. Il y a une très très grande confiance, une très grande solidarité avec ma fille. Et elle vient, je pense, aussi de là. Parce que moi, j'ai pas fait avec elle comme on a fait avec moi. Mais ça, c'est volontaire. Moi, j'ai toujours voulu lui parler. Et pas de cadavre dans les placards.
Mais ça, cette histoire de pas de cadavre dans les placards... Parce que vous avez dit rapidement, et on ne s'est pas beaucoup apesanti dessus tout à l'heure, que vous portiez l'étoile jaune, que vous étiez...
Brièvement, oui, avant d'être subrepticement passé en zone libre.
Et du coup, d'être caché.
Oui, quand les Allemands ont envahi la zone libre, oui.
Et du coup, on peut imaginer que ça vient quand même de là aussi, d'avoir été caché toute jeune. Ça me paraît lourd comme... Comme passé.
Oui, mais c'est très très lourd mon passé, mais vous voyez, on s'en remet.
J'ai une dernière question pour vous, Liane, et ensuite je vous laisse tranquille. Est-ce que vous avez peur de la mort?
Oui et non. Oui. C'est-à-dire oui, irrationnellement. Rationnellement, non. Mais rationnellement, oui. Et vous?
Ouais, vachement. J'ai hyper peur. J'espère que ça va aller mieux en vieillissant.
Ouais, il faut lire Spinoza.
Et d'autres conseils?
Approchez Spinoza. C'est la révélation de ma vie.
Très bien, je vais lire Spinoza.
Spinoza, c'est le plus anti-hiérarchique, le plus bienveillant, le plus... Comment dire ? Le moins superstitieux, le plus intelligent. C'était le philosophe de Einstein. On dit que c'est le philosophe des philosophes. Le philosophe de la joie. Il n'aime pas la tristesse. Il n'aime pas les gens qui vivent sur nous grâce à notre tristesse. Comme les tyrans ou les prêtres.
Eh ben, je peux vous dire qu'en sortant d'ici, je vais aller acheter du Spinoza.
Non, vous n'y arrivez. Enfin, allez-y, mais ça, c'est pas. Moi, j'ai rencontré Spinoza par hasard. Parce que Frédéric Lourdon, un économiste que j'aime beaucoup, en parle et qu'il voudrait bien marier les affects avec le marxisme. Et donc, ça m'a donné envie, mais je suis allé acheter instinctivement l'éthique sans savoir que c'était le bouquin de Spinoza. Mais c'est très, très difficile à lire. Moi, j'ai rencontré Spinoza grâce à Deleuze. Parce que Deleuze a donné des cours à Nanterre, je crois. Audio que j'ai et que j'écoute et réécoute. Et Deleuze explique Spinoza, sans quoi je ne saurais pas expliquer tout comme ça, aussi bien toute seule.
Très bien, j'ai noté Deleuze sur Spinoza. Deleuze,
vous faites YouTube, Deleuze et Spinoza, hein, bon, il y en a 13.
Ben, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Un immense merci à Liliane Rovert pour ce temps partagé dans son café préféré. Sachez que moi, je suis allée acheter Éthique de Spinoza dans la foulée. Que comme prévu, je ne comprends rien du tout. Je vais donc plutôt écouter Deleuze en parler sur YouTube. Merci Liliane.
À bientôt dans Vieille Branche.